Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger. Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Adrien Jean de TF1 LCI, bonjour,
bonjour
Adrien. Cette émission est bien sûr en direct, vous pouvez interpeller le ministre par les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour Questions nettes. Alors Jean-Michel Blanquer, au dernier remaniement en juillet, vous avez failli poser vos valises au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Finalement, elles sont restées rue de Grenelle. Un regret peut-être pour vous, mais aussi une consolation à venir, puisque si vous restez ministre de l'Éducation nationale jusqu'à la fin de 2022, la fin de mai 2022, vous battrez le record de longévité à ce poste. Mais peut-être serez-vous d'ici là candidat au régional en Île-de-France. Nous y reviendrons. Et puis, vous risquez d'affronter des vents contraires. Vous êtes arrivé à l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le rêve d'une vie, dit-on, sous de bons auspices, presque un état de grâce. Mais 3 ans et demi plus tard, le ciel dégagé des débuts s'est lourdement assombri. Selon un récent sondage, plus de 2/3 des enseignants estiment que les réformes que vous avez lancées, nombreuses, dont celles très discutées du lycée et du bac, vont dans le mauvais sens. Même des aveux concernant la gestion de la crise du coronavirus à l'école, une majorité de parents, cette fois, estiment qu'elle n'est pas à la hauteur de la situation. Une crise qui perdure et qui continue de soulever des inquiétudes et des questions. Elles sont très nombreuses. La première vous est posée aujourd'hui par Adrien Jeanne.
Il y aurait beaucoup de choses à corriger dans ce que vous avez
mais
dit.
Mais vous nous direz tout à fait.
Énormément. Il y aurait de quoi répondre à ce que vous venez de dire. Je le dis tout de suite, la moitié des choses que vous avez dites sont à rectifier.
Alors, pour commencer par la situation sanitaire, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, le Premier ministre a indiqué cette semaine que pour fermer les écoles, il faudrait que l'on soit face à une situation gravissime. On sait qu'il y a la menace du variant anglais qui pourrait se diffuser dans le pays. Est-ce qu'on doit attendre qu'il soit trop tard? Est-ce qu'on ne peut pas déjà considérer aujourd'hui que la situation est gravissime?
La situation, elle est grave à l'échelle mondiale et particulièrement à l'échelle européenne, nous le savons tous. Je reviens un instant sur ce qu'a dit M. Sportouche parce que ça permet de répondre à votre question. Je suis très heureux d'être au ministère de l'Éducation nationale. Au dernier remaniement, il s'est élargi. C'est la jeunesse et les sports. Je vous en parlerai aussi puisqu'il y a toutes les mesures nécessaires en faveur de la jeunesse, mais aussi en faveur du sport d'ailleurs. Et depuis le début, ce que je souhaite, c'est être là 5 ans. Donc vous avez fait du commentaire de commentaires qui se sont faits sur le remaniement. Mais la réalité, c'est que je souhaite pendant 5 ans, et précisément parce que nous sommes en train de traverser une crise importante, être là. Et justement, il y a une gestion de la crise sanitaire du point de vue scolaire dont nous n'avons vraiment pas à rougir en France. Je regardais hier un reportage, par exemple, sur l'Italie, où vous avez des manifestations pour revenir à l'école. La France, en 2020, est le pays qui a pu maintenir le plus les enfants à l'école. Et pour moi, c'était évidemment un objectif fondamental.
Mais là, le Premier ministre dit pas on ne fermera
vous avez parlé
les écoles,
de,
il dit
de...
on les fermera si la situation est gravissime. Ce qu'on voudrait comprendre avec vous, c'est qu'est-ce qui ferait que la situation est gravissime? Est-ce que fermer les écoles, ça ne se fera uniquement que si on a reconfiné tout le pays et que le variant anglais s'est emparé de l'intégralité de notre territoire?
Non, c'est pas comme cela que ça fonctionne. Bien entendu, il y a du pilotage en fonction de la situation épidémique. Nous avons des critères qui sont établis à l'avance, depuis le début de la crise d'ailleurs. Je me repère, vous le savez, notamment à partir du Conseil scientifique de la Haute Autorité de Santé Publique et de la Société Française de Pédiatrie. Et c'est avec ces points de repère que nous avons pu mener maintenant 5 rentrées scolaires depuis le mois de mars. Et à chaque fois avec les mêmes débats qui sont bien naturels et en même temps les mêmes décisions à prendre. Quand on regarde a posteriori ce que nous avons fait, je crois qu'on peut dire que c'était les bonnes décisions. C'est ça qui nous a permis de maintenir les enfants. Et aujourd'hui encore, ça reste mon grand objectif, maintenir le plus possible les enfants à l'école, parce que c'est leur intérêt.
Mais on vous interroge, monsieur le ministre, pardon, sur le variant anglais, je me permets d'insister, parce que les premières données scientifiques qui nous sont parvenues, et le gouvernement a eu l'occasion de les commenter, c'est qu'il circule davantage chez les plus jeunes que la souche que nous connaissions jusqu'ici. Donc c'est pour ça qu'on vous interroge sur ce point. Est-ce que l'arrivée du variant britannique change votre approche et le regard que vous pouvez porter sur la question du maintien de l'ouverture des écoles?
Oui, bien entendu. Si vous voulez, finalement, nous étions arrivés, tant qu'il n'y avait pas le variant anglais, à avoir ce mécanisme de pilotage dont je vous parlais à l'instant. Et c'est lui qui nous a permis finalement de revenir à l'école, de ramener les élèves à l'école. Donc c'était important de réussir cela. Au moment du départ en aux vacances de Noël, nous avions autour de 700 contaminations par jour, ce qui est un chiffre donc assez contenu. Et au retour des vacances de Noël, nous avions autour de 600. Évidemment, ça augmente un petit peu maintenant, mais cela nous permet de dire que le milieu scolaire n'est pas plus contaminé que le reste de la société.
Vous êtes certain de cela, Jean-Michel Blanquer ?
Oui, je suis d'autant plus
que... Ce sont des données, pour vous, elles sont très discutées, vous le savez, par les enseignants et par les professeurs.
Vous savez, il y a quelque chose d'assez simple dans un monde par ailleurs très complexe et où personne ne peut affirmer qu'il est certain. Mais je n'avais pas fini de répondre à la question de M. Gindre sur ce que change le variant anglais. Donc je vais revenir là-dessus. Mais sur le variant anglais, bien sûr, ça introduit une nouvelle donne. Et bien sûr, nous regardons ça au quotidien. Et bien sûr, c'est cela qui pourrait faire changer notre doctrine et nos actions s'il fallait contenir une envolée du virus. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Vous le savez, on commence à détecter des variants anglais en France. Et donc, nous faisons aussi ce que nous savons faire depuis le début, c'est-à-dire fermer une école, un collège, un lycée, en fonction d'une situation locale.
Et pourquoi à Bagneux, juste par exemple, très précisément, il y a eu un cluster à risque qui a été identifié à Bagneux, en Île-de-France, avec justement ce variant anglais. Vous avez fait des tests, on va en parler, mais pourquoi ne pas avoir fermé directement l'établissement ?
Non, parce que d'abord, l'origine du problème venait d'une personne qui était une employée communale qui avait sans doute, même si c'est trop tôt pour le dire, sans doute contaminée au travers d'activités qui avaient lieu pendant les vacances. Donc le milieu scolaire n'était pas spécifiquement concerné, par contre la population jeune l'était. Donc la politique à avoir sur un cas comme celui-là, c'est de tester tout le monde, c'est ce que nous avons fait ces derniers jours, et donc on va commencer à avoir les résultats, puisque ce sont des tests PCR s'agissant de Bagneux.
Vous n'en avez pas là aujourd'hui ?
Non, au moment où je vous parle, on n'a pas le résultat de tous. Les premiers éléments que gêne sont... était plutôt rassurant, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et c'est donc demain qu'on serait amené éventuellement à prendre des décisions de fermeture, si c'était nécessaire.
Demain, on saura éventuellement si vous fermez. Parce que, oui. En même temps, on se dit, pourquoi pas appliquer le principe de précaution ?
C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire à partir du moment où il y a plus de 3 cas, très souvent la décision de fermeture est prise, à chaque fois elle est prise avec les autorités de santé. Rappelons que en permanence depuis septembre, nous avons eu plusieurs dizaines d'écoles, collèges et lycées fermés, qui réouvrent 15 jours plus tard. C'est ce système qui nous a permis de maintenir les élèves en classe, et c'est un bien très précieux. Je rappelle que, comme l'a rappelé le Premier ministre, notre boussole, c'est de dire que la dernière chose qui aurait à fermer en cas de durcissement des mesures, c'est l'école.
Y compris un reconfinement, si reconfinement il y a, ça se fera avec école ouverte, Jean-Michel Blanquer.
Non, vous pouvez imaginer, d'abord, nous souhaitons tous ardemment qu'il n'y ait pas reconfinement, bien entendu. Si ça devait arriver, vous pouvez imaginer reconfinement sauf école, ou reconfinement, y compris les écoles. Néanmoins, nous avons vu que le deuxième confinement qui a été décidé par le président de la République, et la réussite de ce deuxième confinement, c'est nous lui devons à cette réussite le fait que aujourd'hui nous ayons une France moins contaminée que d'autres pays voisins, ne l'oublions pas. Ce deuxième confinement, qui était un deuxième confinement avec ouverture des écoles, nous a montré qu'on pouvait être efficace en maintenant les écoles ouvertes. Donc évidemment, je suis très attentif à ce que l'on ne ferme les écoles qu'en dernier ressort, quand cela apparaît comme absolument indispensable. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas.
En dernier ressort, Guillaume Roquette.
Une autre façon moins directe de fermer les écoles, c'est de prolonger les vacances. Il y a des vacances qui arrivent là le mois prochain. Est-ce que, compte tenu des éléments relativement inquiétants qu'on a dans la situation générale, on a vu le couvre-feu qui est avancé à 18h dans un certain nombre de départements, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour le rallongement des prochaines vacances ?
Non, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Ça a été des commentaires
évoqués.
Ça a été évoqué, et sur ce point comme sur d'autres, je dis... Nous ne rejetons à l'avance aucune solution. Donc ça pourrait arriver, mais ça n'est pas à l'ordre du jour, au sens où ça n'est absolument pas une hypothèse privilégiée. Ma boussole sur ce point, c'est évidemment de maintenir les calendriers autant que possible. On sait que quand on change les calendriers, on désorganise beaucoup de choses dans la société, dans les familles, dans la vie économique et sociale. Donc le principe, c'est le maintien des vacances telles quelles. Après, si encore une fois la situation épidémique le réclamait, éventuellement on prendrait ce type de mesure, mais ça n'est pas à l'ordre du jour.
Mais vous assumez le fait que globalement la France est moins peureuse ou prudente que d'autres pays européens, parce qu'il y a très peu de pays où les écoles restent ouvertes comme chez nous.
Mais non seulement je l'assume, mais j'en suis extrêmement fier. Je pense que c'est les Français qui doivent être fiers de cela. Je regarde certaines enquêtes. On voit que, par exemple, 75% des Français sont pour le fait que les enfants soient à l'école. Ils ont raison. Vous savez, ce qui fait la réussite d'un pays, c'est le fait de croire en son école. Vous avez une région comme la Bretagne, qui est la région qui réussit le plus sur le plan scolaire. Quand on fait des enquêtes dans la population, sur ce qu'ils pensent de l'école, c'est dans cette région où on croit le plus à l'école.
Ailleurs en Europe, donc, on croit moins en l'école, alors ?
Aujourd'hui, effectivement, dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne, les gens sont moins partisans du retour à l'école. Donc ce que l'on a réussi en 2020, et qui était vrai fin 2020, qui n'était pas forcément début 2020, c'est une augmentation de l'affection pour l'école. C'est un point très important, c'est parce que la psychologie collective est essentielle, c'est-à-dire on aime l'école. Et je pense que le confinement, d'ailleurs, quand on a été privé d'école, a accentué cela, c'est-à-dire les gens étaient très heureux de revenir à l'école. On l'a vu en septembre, ça a même abouti à un phénomène qui est contre-intuitif, qui est que vous avez eu moins de décrochage en 2020 qu'en 2019.
Combien autrement de décrochage
dit, vous avez à peu près 60 000 par an, et on était autour de 70 000 auparavant. Je rappelle qu'il y a 10 ans, c'était 120 000 par an, donc c'est un sujet qui ne cesse de progresser depuis 10 ans.
Et comment vous expliquez cette plutôt relative bonne nouvelle ?
Parce que les écoles ont été fermées dans le premier confinement.
Je reconnais qu'elle est totalement contre-intuitive, elle est pourtant avérée. Vous pouvez par exemple interroger les professeurs de lycées professionnels qui sont aux avant-postes dans ce genre de lutte. C'est là qu'on peut constater du décrochage, surtout quand il y a du confinement qui vous prive des stages en entreprise et de toute une série de choses très concrètes. Eh bien, les élèves sont revenus, notamment, ils sont venus un peu en mai-juin quand on a un peu réouvert, et tout particulièrement en septembre. Et ce qu'on a constaté, c'est tout simplement qu'avoir été privé de lycée les a ramenés à venir. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail de tout le monde, et je veux vraiment remercier l'ensemble des personnels de l'éducation nationale sur ce point. C'est pourquoi, de temps en temps, n'ayons pas peur d'être fiers de la France. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, vous avez des Italiens qui manifestent pour retourner à l'école et qui se plaignent de mesures trop restrictives. Et donc, aujourd'hui, le fait que, premièrement, on ait une population qui aime son école et veuille que les enfants y aillent. Deuxièmement, le fait qu'on ait trouvé une méthodologie qui nous a permis de contenir la contamination, puisque, encore une fois, le taux de contamination à l'école est inférieur à ce qui se passe dans le reste de la société. Bien, ces éléments-là sont des éléments de fierté française. Et aujourd'hui, vous avez plutôt d'autres pays qui regardent comment fait la France. Et ce serait paradoxal que nous, Français, nous disions « Ah, c'est bizarre, on ne fait pas comme les autres. » Pourquoi, quand on est premier, on s'étonne et on voudrait ne plus l'être ?
Exercice d'autosatisfaction qu'on entend, Jean-Michel Blanquer, reste que le variant anglais est plus contagieux chez les jeunes, c'est ce qu'on nous dit.
C'est l'autosatisfaction collective, pour la France, pas pour moi. Si, c'est pas ma personne qui est en cause, c'est la question de la France autour de son école. Donc c'est un point. Sachons avoir de l'autosatisfaction collective, être fier de notre pays, c'est important.
Mais il y a aussi, et vous le savez, Jean-Michel
quand on arrive à des choses.
Il y a eu, on va y venir, les débuts chaotiques sur la vaccination, et après, avant, il y avait eu les masques, les tests, donc les Français sont dans une certaine méfiance qu'ils expriment également.
Aujourd'hui, nous sommes le pays qui en fait le plus, et c'est gratuit. Sachons voir ce qui va aussi, c'est-à-dire il y a des choses qui sont remarquables, là, cette fois-ci, grâce au système de santé français. Il y a bien sûr des choses qui sont moins bonnes, les reconnaître, mais si on est toute la journée à ne parler que de ce qui ne va pas, ou de ce qui soi-disant ne va pas, tandis que par ailleurs, on n'arrive pas à voir nos atouts dans une telle tempête, eh bien, on crée un cercle vicieux du pessimisme. Moi, je crois que nous avons des atouts en France dans cette épidémie. Nous faisons parfois des erreurs, nous avons des insuffisances, bien sûr. Ce qui est important, c'est de les corriger. Et plus nous créons de l'unité nationale autour de ça, plus nous en sortirons. Les grands pays.
Vous appelez l'unité nationale, mais comment, Jean-Michel Blanquer, puisque vous nous dites, on fait des choses bien. Il y a eu ces débuts difficiles sur les masques, puis sur les tests. Vient maintenant la vaccination. Et là, on voit bien que les débuts sont chaotiques. Pourquoi est-ce si compliqué en France de mener une stratégie qui démarre bien dès le début?
Alors, je ne suis pas le meilleur pour commenter cela, puisque on n'est pas plus bien, on va revenir totalement dans mon domaine, mais en deux mots. À chaque fois, il y a plusieurs explications, me semble-t-il. L'une d'entre elles, c'est que, comme nous avons à chaque fois des services publics nationaux, nous avons une capacité à développer les choses à l'échelle nationale de manière équitable, mais qui prend un certain temps dans les démarrages. Donc c'est vrai sur le plan logistique, c'est vrai sur d'autres domaines. Autrement dit, il y a un travail de préparation. Les choses sont in fine moins anarchiques et plus complètes en France. Simplement, ça prend un temps plus important au démarrage. C'est ce qu'on constate pour les tests. L'exemple est typique. Pour les tests, il y a différentes explications, mais l'une d'entre elles, c'est le temps du déploiement. Maintenant que ce temps a lieu, la France est de très loin un pays où ça se passe bien.
Mais est-ce que vous considérez, Jean-Michel Blanquer, qui a urgence, on a entendu certains ténors de la majorité expliquer ces dernières semaines, en particulier sur la vaccination, qu'on n'était pas dans une course contre la montre, alors que chaque jour, il y a des bilans qui sont annoncés avec des centaines de morts. C'est très troublant d'entendre le gouvernement et la majorité expliquer qu'on n'est pas dans une course contre la montre. Est-ce que vous partagez ce constat, cette idée ?
L'expression course contre la montre, elle peut faire l'objet de différentes interprétations. Il est évident qu'il faut aller le plus vite possible et le plus large possible. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la question est de le faire en bon ordre. Et le bon ordre, c'est de commencer par les personnes qui en ont le plus besoin. Autrement dit, les personnes les plus âgées, les personnes les plus vulnérables. C'est ce qui a démarré. On va atteindre les 100 000 vaccinés ce week-end. Ça va continuer à se déployer. Donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines, quand on fera le bilan au bout de quelques semaines d'une stratégie qui, dans tous les pays, porte sur plusieurs mois. Donc on est un peu comme, si vous voulez, on est un peu comme dans une course en bateau où un bateau qui serait un peu derrière les autres, c'est les partisans de ce bateau s'énerveraient. Non, attendez la fin de cette.
Oui, mais sauf que comme le rappelle Guillaume Rocard, il y a des gens qui continuent de mourir, Jean-Michel Blanquer. C'est très étonnant de se dire on a le temps.
Je ne pense pas. Encore une fois, sur les sujets de santé, je préfère m'exprimer avec quand même une certaine prudence et une certaine humilité. Je préfère quand même vous parler d'école. Mais là, sur la question que vous dites, c'est évidemment en vaccinant d'abord les plus âgés que l'on réussit à se protéger contre d'éventuels décès.
Sur la vaccination à l'école, Guillaume Roquette. Justement.
Oui, les professeurs vont-ils être vaccinés ? Si oui, quand et selon quels critères ?
Alors, dans la cohérence de ce que nous disions précédemment, d'abord, c'est la Haute Autorité de Santé qui définit cette stratégie. Et là aussi, il y a des enjeux de cohérence, de cohésion, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Ce qui est dit très clairement depuis le début, c'est que c'est le critère d'âge et de vulnérabilité qui est le premier critère. Donc c'est ceci qui est en train de se déployer. Progressivement, on va voir cet âge descendre et les vaccins se déployer. Quand ça va atteindre l'âge des populations actives, alors oui, nous considérons les professeurs parmi les premiers. Bien entendu, il y a les soignants qui font partie des premiers, les pompiers aussi. Et une profession comme celle de professeur fait partie des premiers concernés.
Mais parmi les premiers, c'est toutes ces professions que vous venez de citer en même temps, où il y aura dans ces professions un ordre.
Encore une fois, ce qui est très important, dès qu'on commence à rentrer dans les détails, c'est que ce soit les autorités de santé qui le disent. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est les déclarations dans tous les sens, qui ensuite font l'objet d'interprétations et qui créent du désordre. Donc, ce que chacun doit bien retenir, c'est premièrement, le grand critère, c'est celui de l'âge. Pour l'instant, ça amène aux personnes qui sont en âge d'être à la retraite. Quand on va arriver à l'âge de la population active, alors la Haute Autorité de Santé définira un certain nombre de critères. Il y a aussi des enjeux pratiques, de lieux dans lesquels nous le ferons.
Et bien entendu, nationale, ce sera dans les établissements scolaires.
Ça peut être dans un établissement scolaire. C'est un sujet qui se traite département par département, parce que ça peut être pertinent dans tel endroit, pas pertinent dans un autre. Et donc, mais encore une fois, plus les choses se font en bon ordre, en cohésion, en cohérence et avec, je dirais, un esprit constructif aussi, de tous, plus nous réussirons à passer aussi ce cap.
À ce jour, je ne peux pas vous indiquer quand les professeurs, par exemple, de plus de 50 ans, pourront être vaccinés.
Non, de toute façon, c'est impossible de dire le jour précis, puisqu'il y a évidemment toute une série de paramètres. En revanche, je veux dire que la dynamique est enclenchée pour arriver à cela, oui, bien sûr.
Et la vaccination des élèves.
Et ça aura lieu forcément au premier semestre.
La vaccination des élèves
au premier semestre.
C'est dans le courant du premier semestre que l'ensemble des évolutions nous permettant de vacciner plus vont se produire, bien
plus
sûr.
Plus c'est tardif, ceux qui nous écoutent et nous regardent s'interrogent, parce que si c'est en mai, juin, ça viendra presque au moment des vacances scolaires, donc l'efficacité sera moindre.
Bien sûr, il faut que ce soit le plus tôt possible, c'est évident, bien sûr.
Quand vous dites que les profs, les enseignants font partie des publics prioritaires, au même titre que les pompiers, c'est parce qu'ils ont un métier qui est plus exposé que d'autres ?
Alors, c'est ce qui reste à démontrer, puisqu'aujourd'hui, quand on fait les enquêtes, les professeurs ne sont pas plus contaminés que le reste de la population, fort heureusement. J'ai un critère depuis le début sur ce sujet. Vous savez, en mars-avril, nous avions organisé, pendant tout le confinement, l'accueil des enfants de personnel soignant dans les écoles. C'était à peu près 30 000 enfants qui étaient accueillis tous les jours, et même le samedi et le dimanche. Et c'était notamment des personnels de l'éducation nationale et des collectivités locales, et des volontaires qui étaient là pour le faire. Et je regardais de très près, évidemment, les contaminations qui pouvaient exister à ce moment-là, et elles ont été extrêmement faibles. Depuis ce temps, j'ai quand même acquis la conviction que dès lors qu'on respecte les gestes barrières, et puis dès lors qu'il y a les masques, eh bien, on arrive à contenir les effets de contamination. Il y a eu de nombreux débats là-dessus, j'ai subi de nombreuses critiques. Néanmoins, quand on regarde a posteriori les choix qui ont été faits et les résultats auxquels nous sommes arrivés, encore une fois, nous n'avons pas à rougir et nous avons même à nous appuyer sur cette expérience pour faire les choses qui conviennent dans les temps qui viennent.
Et du coup, ça n'est pas trop urgent de vacciner les profs ?
Je pense que c'est une mesure de précaution, de prudence, et qui, bien entendu, permet à chacun de se sentir plus sûr, bien entendu.
Qu'en est-il, Adrien Jaune, de vous poser la question concernant les élèves ?
On sait, a priori, hein, vous allez peut-être me confirmer, que ces vaccinations devaient commencer à partir de 18 ans. Mais si le variant anglais est plus dangereux et que sa propagation est plus importante, est-ce que vous envisagez de vacciner les jeunes à partir de 14 ou 16 ans, par exemple, dans les établissements scolaires ?
Ça ne me semble pas inimaginable. Simplement, encore une fois, sur tous ces sujets qui sont de santé strictement, qui appellent des critères scientifiques et médicaux, vous comprenez que je ne prends pas des positions absolues et définitives. Je dois évidemment m'en référer aux autorités de santé. Donc le moment venu, elles définiront ce qu'il y a à faire. Pour ma part, il me semble qu'il y a, il y a déjà eu dans le passé des campagnes de vaccins pour les enfants et les adolescents. Pourquoi pas sur ce sujet ?
Mais vous en avez des moyens, Jean-Michel Blanquer. 7 700 infirmières scolaires pour 12 millions d'élèves et moins de 800 médecins scolaires.
Non, mais c'est l'ensemble de la communauté médicale qui inclut les infirmières scolaires et médecins scolaires, mais qui ne se résume pas à ça, qui est mobilisé dans ces cas-là. Si vous faites une campagne de vaccination en milieu scolaire, vous ne mobilisez pas que les médecins scolaires et les infirmières scolaires.
C'est-à-dire, on mobilisera qui, Jean-Michel Blanquer ? Parce qu'on imagine que les autres personnels de santé sont occupés par ailleurs.
Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle les PMI, c'est-à-dire les structures en charge de l'enfance au niveau de chaque territoire. Et de plus en plus, sur ce sujet comme sur d'autres, nous sommes capables de travailler en équipe. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs pendant toute la crise épidémique.
Et sur les tests dans les établissements scolaires, on a entendu parler de réticence des infirmières scolaires à faire les tests. Est-ce que ces réticences sont levées ? Deuxièmement, est-ce que vous pourriez pratiquer des tests plus massifs ? Parce que jusqu'à présent, il y a eu 10 000 tests seulement.
Non, il y a eu 10 000 tests au mois de décembre dans les lycées. Au mois de janvier, nous en faisons 1 million. Nous nous sommes mis en situation de faire 1 million de tests en milieu scolaire. Quand nous les faisons
dans les lycées ?
Non, les lycées et les collèges. C'est essentiellement les lycées et les collèges. À titre exceptionnel, à titre plus exceptionnel dans les écoles primaires quand il y a des cas. Mais sinon, les lycées et les collèges sont testés chaque fois que l'on voit plus de 3 cas. Et nous avons étendu la possibilité de tester tout le monde. Maintenant, n'oublions pas que le test est sur la base de volontariat et que l'expérience nous a montré jusqu'à présent qu'on n'avait pas forcément tout le monde volontaire dans ce genre de situation.
Il y a des élèves qui ne veulent pas se faire tester ?
Des élèves et des adultes. Parfois ne souhaitent pas être testés quand on leur propose. Simplement, ce que nous avons bien su faire avec les autorités de santé tout au long des mois précédents, c'était de rompre la chaîne de contact. Il y a toute une méthodologie qui a été développée, ce qui fait qu'on utilisait les tests à bon escient et on remontait les chaînes de contamination. Souvent, cela nous a amené à constater d'ailleurs que la contamination d'un acteur scolaire, c'est-à-dire un élève ou un adulte, était lié à une activité en dehors de l'école. Il arrive qu'il y ait une contamination dans le domaine scolaire, mais à chaque fois qu'on enquête, très souvent quand on enquête, on se rend compte que c'est en dehors que cela s'est passé.
Les tests dont vous parlez, Jean-Michel Blanquer, on est d'accord, ce sont toujours des tests antigéniques.
Non, il y a des tests PCR et des tests antigéniques.
Et quand vous dites 1 million, quelle est la...
1 million, c'est plutôt c'est une majorité de tests antigéniques. Mais il y a aussi quelques tests PCR.
À quelle échéance ce million ? Combien de temps qu'est-ce que vous fixez ?
Autant que nécessaire, c'est-à-dire c'est ce dont nous disposons pour tester autant que nécessaire au mois de janvier. Et bien sûr, ça se renouvellera au mois de février. Et c'est un travail de longue haleine avec le ministère de la Santé, les autorités de santé.
Alors bien sûr, il y a aussi une inquiétude à propos des examens et du bac, Adrien Gindre.
Puisque vous êtes bien placé pour le savoir, le calendrier prend sa pleine puissance en théorie, normalement avec des épreuves attendues au mois de mars. Je dis en théorie attendu avec cette précaution, puisqu'on sait que l'épidémie va compliquer les choses, que certains demandent à ce que l'on reporte les épreuves qui sont programmées au mois de mars. Est-ce que c'est une possibilité ? Si oui, à quelles conditions ? Qu'est-ce qui fera qu'on pourra éventuellement oublier ces épreuves du mois de mars au vu de la situation sanitaire ?
Alors, il faut resituer l'importance de ces épreuves du mois de mars. Rappelons qu'il s'agit de deux enseignements de spécialité que chaque élève de terminale générale a choisi au début de l'année scolaire.
C'est votre réforme, ça.
C'est la suite de la réforme. Et un des grands aspects de la réforme, c'est que plutôt que d'être dans un couloir comme avant, où on avait soit S, soit ES, soit L comme choix, on a beaucoup plus de choix et on choisit donc 3 enseignements de spécialité en première, puis 2 en terminale. Et c'est ces deux-là qu'on va passer. Donc ces 2 enseignements de spécialité correspondent normalement à une passion de l'élève, à quelque chose qu'il a envie d'approfondir. Et c'est un des outils importants que nous avons pour rehausser le niveau général, puisque nous avons été plus exigeants sur les contenus, puisqu'il s'agit de domaines qui intéressent tout particulièrement l'élève.
Vous dites, il faut le faire.
Donc c'est très important dans cette réforme, parce que ça dit quelque chose aussi de la suite du parcours de l'élève. Un des éléments de l'esprit de cette réforme, c'est d'éviter ensuite l'échec dans l'enseignement supérieur. Et donc d'avoir permis à l'élève de faire d'abord d'être plus heureux au lycée, d'avoir fait des vrais choix, et ensuite d'être mieux préparé à ce qui arrivera par la suite. Et donc, dans ce contexte, la note obtenue en mars peut être prise en compte dans Parcoursup, et donc créer une sorte de chaîne de cohérence entre ce qu'on a fait en terminale et ce qu'on fait dans l'enseignement supérieur. Donc le passé en mars est important, c'est pourquoi nous le maintenons en mars. Nous le faisons aussi avec grande bienveillance vis-à-vis des élèves. Moi, vous savez, les élèves de terminale, je pense à eux tous les jours pour justement les accompagner, les aider. Le but, c'est de les faire réussir, tout simplement. Et pour les faire réussir, nous avons aussi décidé qu'il y ait deux sujets et pas un seul, ce qui, évidemment, limite l'hypothèse où un élève a fait une impasse. Et c'est aussi ce qui doit permettre d'arriver plus détendu à cet examen. Là, je pense que tout un chacun, nous pouvons avoir des paroles, je dirais, d'accompagnement et de bienveillance vis-à-vis des élèves. Et le fait de le faire en mars leur permettra aussi.
Donc il n'y aura pas de report, si je comprends bien.
Il n'y aura pas de report, sauf si évidemment la situation épidémique m'amenait à faire un report. Mais imaginez que je décide dès maintenant un report, dès le mois dernier, comme on me le demandait.
J'imagine que ça s'anticipe un report. Bon,
oui, bah, nous sommes de toute façon prêts pour les deux hypothèses. Mais si nous avions déjà reporté, indépendamment des circonstances épidémiques, au mois de juin, nous n'aurions plus de filet de sécurité ensuite, au cas où au mois de juin, nous aurions des difficultés du même ordre. Donc il faut maintenir en mars. Et puis, évidemment, nous regarderons dans les semaines qui précèdent ce qui est prévisible sur le plan épidémique. Mais à ce stade, nous maintenons le mois de mars dans l'intérêt des élèves. Et c'est aussi pour ça que je ne change pas autant que je peux les calendriers, parce que c'est important que les élèves puissent se préparer d'une manière la plus prévisible possible. Je reconnais que très souvent...
Question calendrier très précise. Les lycées, par exemple, vous aviez dit que les cours pourraient reprendre à 100% autour du 20 janvier. Ça arrive, c'est très proche. Est-ce que vous maintenez cette date? Est-ce que vous espérez toujours? Ou c'est un lointain souvenir au regard de la situation actuelle?
Malheureusement, je pense qu'on devra revenir sur cela, parce que, en effet, la situation épidémique étant ce qu'elle est, on est obligé de revenir sur les mesures envisagées d'assouplissement, dans ce domaine comme dans d'autres. Donc, j'ai toujours utilisé l'image du curseur. Vous savez, on a un protocole sanitaire dont nous faisons avancer le curseur dans un sens comme dans l'autre, selon les circonstances. C'est vrai que depuis septembre, nous avons surtout été amenés à le faire avancer dans le sens du durcissement. Par exemple, quand on a décidé que le masque était obligatoire, y compris pour les enfants de 6 ans, c'était une décision difficile. Je sais qu'elle n'est pas facile à vivre parfois, mais nous avons été amenés à le faire et finalement, elle a prouvé son efficacité. Nous avons aussi été amenés, au début du mois de novembre, à créer ce système hybride pour les lycées et pour une toute petite minorité de collèges. Et nous le faisons. Évidemment, nous préférerions que ce ne soit pas le cas, mais nous le maintenons avec quand même une recommandation.
Vous pourriez durcir, on a plutôt durci depuis septembre. Est-ce que vous pourriez aller encore plus loin pour le coup dans le
système ? Bien sûr, c'est l'exemple que nous donnions tout à l'heure. Vous pouvez imaginer d'hybrider davantage, vous pouvez imaginer toujours de durcir davantage. Je ne le souhaite pas, évidemment. Chaque fois qu'on peut assouplir, c'est mieux. Mais nous sommes responsables. Comme vous le voyez très bien, il y a deux objectifs que nous essayons de tenir en même temps, c'est-à-dire que les enfants aient école, d'une part, et d'autre part, que les conditions, que nous ayons un protocole sanitaire qui garantisse au maximum la santé de tous. Et c'est en tenant les deux bouts de cette chaîne que nous avançons. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous a permis d'être le pays qui a le plus d'élèves à l'école et le plus de jours école par élève.
Michel Blanquer, qu'il y a des lycées où ça se fait, d'autres où ça ne se fait pas, c'est-à-dire 100%, 50%, 70%, ça peut être 100%. Dans l'Académie de Versailles, il y a 4 lycées publics, personne n'a opté pour les mêmes modalités. Du coup, on se demande en quoi, dans ce cas-là, l'éducation est nationale, parce qu'on a l'impression qu'il peut y avoir rupture d'égalité. C'est en tout cas ce que vous disent les syndicats. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument?
Si vous voulez, soit vous prenez des mesures nationales uniformes et on vous dit vous êtes vertical et autoritaire, soit vous prenez des mesures de souplesse locale et on dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hétérogénéité. Donc, par définition, toutes les mesures qu'on prend sont quelque part entre l'objectif d'unité nationale, qui est très important, et d'égalité, et puis l'objectif de souplesse, qui est un objectif de pragmatisme. Donc ce pragmatisme, c'est ce qui était nécessaire, parce que chaque lycée est dans une situation différente. Pour qu'il y ait le maximum d'égalité, nous recommandons quand même, dans les lycées, que les élèves de terminale soient au maximum en présence, parce que justement, ils ont les examens à préparer, et donc c'est mieux de faire de l'hybridation pour les élèves de seconde et première, quand on peut choisir.
On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury, on parlera notamment laïcité. À tout de suite.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre et Guillaume Roquette. Nous allons parler laïcité, bien sûr, c'est un sujet qui importe toujours les Français, mais encore une fois, une question sur la vaccination. Guillaume Roquette.
Oui, et sur les débuts chaotiques de cette campagne de vaccination. Avec de telles carences, dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, le débarquement de juin 44 aurait échoué.
Bon, je pense que du côté de l'opposition, il y a parfois un peu de facilité rhétorique. Chacun doit regarder un petit peu devant sa porte sur ces sujets-là. Je pense que nous avons besoin de cohésion nationale sur ces sujets, et que dans ces moments-là, les grands leaders politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, se voient. C'est-à-dire, c'est ceux qui ne cherchent pas les petites polémiques. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Il y a toute une série d'imperfections, et c'est vrai dans chaque pays du monde, je peux vous le dire. Mais ce qui fait un grand pays, c'est notre capacité à créer, bien sûr, de l'esprit critique. Il faut toujours regarder ce qui ne va pas et avancer, c'est évident. Ça, nous savons bien le faire, de critiquer et avancer à partir de la critique. Mais il faut aussi avoir l'esprit d'unité. Au moment du débarquement, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a pu faire la force de l'Angleterre, c'était l'unité, quelles que soient les difficultés. Eh bien, que Mme Hidalgo s'inspire de cela.
Vous appelez beaucoup aujourd'hui à l'unité nationale, Jean-Michel Blanquer.
De façon générale, je pense que même avant l'épidémie, c'est quelque chose. Nous avons besoin. La France a des atouts extraordinaires quand elle a de l'unité nationale. Notre seul défaut, c'est de nous diviser.
Mais c'est normal que l'opposition soit dans son rôle et qu'elle nous fasse des critiques.
Je ne nie pas. C'est certain. Après, il y a des sujets à la fois de bien choisir ses objets d'attaque. Et le degré de virulence, si vous voulez. Et puis, que lorsqu'il y a une crise gravissime, une des plus graves crises, peut-être la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, avoir un peu plus d'unité qu'en temps ordinaire me paraît être une bonne attitude politique. J'observe des leaders de l'opposition qui font ça très bien. Donc, on peut tout à fait faire vivre la vie démocratique. Je prenais l'exemple de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous aviez une vie démocratique, vous aviez des critiques. Simplement, c'était l'unité nationale face au fléau. Nous l'avons réussi en partie, nous les Français. Regardez le civisme des Français dans les circonstances actuelles, dans bien des circonstances. Donc, nous avons des atouts de civisme, mais c'est aussi aux responsables politique, justement, d'être pleinement responsable, c'est-à-dire critiquer, bien entendu, mais le faire d'une manière qui ne soit pas parfois un peu trop... qui ne choisisse pas trop la pente de la facilité.
Jean-Michel Blanquer, vous avez rappelé tout à l'heure que sur certains sujets, la France pouvait se féliciter d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment, d'être mieux placé que ses voisins, par exemple. On a une administration qui est parfois critiquée, parfois justement saluée pour sa force et sa compétence. On a appris pourtant cette semaine que le gouvernement avait recours à des cabinets privés de conseils pour l'aider à piloter la décision publique. Est-ce qu'on a besoin de recourir au privé quand on a une administration telle que la nôtre, des hauts fonctionnaires, des directeurs généraux d'administration, des cabinets ministériels? Est-ce que vous, par exemple, à l'Éducation nationale, vous avez recours à ces cabinets privés?
Non, presque pas. Ça peut arriver. Il y a une tradition qui s'est installée depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Ça peut parfois être utile parce que notamment certains de ces cabinets ont une dimension mondiale. Donc ils font de la comparaison internationale qui peut être utile. Ils ont développé des méthodologies qui permettent parfois de développer à l'échelle de la France des choses qui ont bien marché ailleurs. Donc il ne faut pas écarter ça à 100%. Mais tant qu'on peut éviter, c'est mieux de l'éviter. Et à l'Éducation nationale, j'essaye de ne pas trop avoir recours à ça. Je pense que c'est très important d'avoir une culture du service public française. Vous pouvez avoir, par exemple, des audits internes, c'est-à-dire des gens qui ont ce type de compétences, mais qui font partie de votre maison. De temps en temps, avoir recours à de l'externe, ça peut être utile, mais il ne faut pas en abuser.
Et en l'occurrence, c'était vraiment nécessaire?
Alors là, je suis très mal placé pour en juger. Je ne sais absolument pas le travail qu'ils ont fait. On n'est pas dans mon domaine ministériel, mais ça a sans doute été utile, je l'imagine.
On l'espère. Guillaume Roquette.
Oui, sur le sujet de la laïcité, il y a une professeure de Toulouse qui s'appelle Fatia Boujalat qui a reproché sur son compte Twitter à plusieurs élèves de ne pas avoir respecté le temps de minute de silence que vous aviez demandé après la mort de Samuel Paty. Et il y a des syndicats, CGT, Sud, qui demandent au rectorat de prendre des sanctions contre elle. Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est surréaliste que des syndicats... D'abord qu'un syndicat puisse demander qu'on prenne des sanctions contre un professeur. J'avoue que je ne suis pas certain, ça fait un bout de temps que je fréquente l'Éducation nationale, que j'en fais partie. Je n'ai pas tellement souvenir d'un syndicat qui demande qu'on sanctionne un professeur. Qui plus est sur un sujet pareil, où évidemment, ce que nous devons, c'est la protection à cette femme. Comment, après ce qui s'est passé avec Samuel Paty, des structures syndicales, en l'occurrence, qui ne sont minoritaires à l'Éducation nationale, je vous rassure, peuvent demander une chose pareille. C'est proprement hallucinant. Cette professeure a le droit, au contraire, a toute ma protection, et elle l'a d'ailleurs.
Elle aura une protection fonctionnelle, et qu'est-ce qu'une protection fonctionnelle ?
Oui, elle l'a demandé, j'ai regardé, vous savez, il y a de temps en temps des affaires de ce genre, nous avons maintenant un système de signalement et de remontée qui me permet normalement de voir ces différents cas, et donc j'y ai prêté une attention comme à d'autres cas, et dans ces cas-là, il y a une série de critères à retenir, il faut être là aussi très, très serein et très efficace. Et elle devrait avoir cette protection fonctionnelle.
Alors, j'ai toujours à propos de la laïcité, un sondage cette semaine a été révélé, un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo, sur lequel nous avons beaucoup discuté sur RTL, et notamment sur l'hommage à Samuel Paty, qui a été plus perturbé que ce qu'on pouvait imaginer. Si on en croit ce sondage, un professeur sur cinq dit avoir observé des contestations pendant les cérémonies, et ça monte à un professeur sur trois en réseau d'éducation prioritaire. C'est beaucoup plus que les 800 incidents signalés et remontés à votre ministère, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous avez sous-estimé le phénomène ?
Je pense qu'en tout cas, on l'a estimé plus que jamais, puisque auparavant, ce type de remontée existait peu ou pas. Et donc, nous savons maintenant que les faits les plus graves sont remontés. Après que, vous savez, dans une classe, lorsqu'il y a la minute de silence, vous voyez un élève qui a une attitude que vous jugez peu respectueuse, vous pouvez considérer que la minute de silence n'a pas été pleinement respectée sans que ce soit pour autant un fait à signaler. Donc je ne suis pas tellement étonné par ces chiffres, parce que je pense que, ne serait-ce que parce que parfois même, indépendamment de la sympathie qu'un élève peut avoir pour l'islamisme radical, il peut y avoir des effets de potache.
C'est plus des effets de potache pour vous.
Ça peut exister, bien sûr. Et les professeurs savent gérer cela, et c'est aussi l'occasion d'un cours d'éducation civique, etc. Donc on ne doit pas mettre tous les faits à la même hauteur. Dire cela, ce n'est absolument pas sous-estimer la gravité des choses. Je suis vraiment le premier à dire que nous devons être extrêmement vigilants. Mais en même temps, on doit avoir une juste mesure de ce qui se passe. Et pour tous les faits qui ont été signalés, et ça tous les professeurs de France le savent, s'ils signalent quelque chose qui mérite d'être signalé, nous agissons, notamment avec des équipes qui viennent dans les établissements pour prêter main forte et permettre que on affiche que la République est la plus forte.
Oui, la République est la plus forte, mais dans ce même sondage, on apprend qu'un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré sur les sujets de religion pour ne pas avoir de difficultés avec certains élèves. C'est quand même grave. Là, on n'est plus dans le potage, vous êtes d'accord ?
Oui, bien sûr. On est même dans un phénomène, je dirais, de psychologie collective à l'échelle même de l'ensemble du pays, au-delà de l'éducation nationale. Lorsqu'ils disent ce qu'ils répondent dans cette enquête, ils parlent d'ailleurs pas forcément de quelque chose qui est arrivé tout récemment. Ça, en tout cas, mon message, il est évidemment qu'il ne doit y avoir aucune autocensure, que personne ne sera lâché lorsqu'il fait son travail. Exemple de l'affaire de Toulouse que vous citiez précédemment, et que, bien entendu, l'institution est forte et elle est là pour aider chacun. Donc, si vous voulez, ce qui a pu produire ce type de phénomène dans les décennies passées, et c'est à regretter, c'est le fait que le professeur pouvait se sentir tout seul et pouvait sentir comme une sorte de laisser-aller, voire de raz-de-marée, notamment dans les territoires où l'islamisme radical a conquis les esprits, certains esprits en tout cas, voire des esprits jeunes. Cette période, nous la voulons révolue désormais. Nous affichons vraiment des principes qui sont extrêmement clairs et nous mettons chaque personnel de l'éducation nationale en situation de force quand c'est nécessaire. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas une pente importante à remonter, mais sur ce sujet aussi, il faut avoir une forme d'unité nationale, puisque l'immense majorité des Français, toute religion ou non-religion confondue, disons-le, parce qu'encore une fois, nos concitoyens musulmans demande que nous ayons cette attitude de fermeté, parce que précisément, il voit avancer la frange radicale islamiste qui est dangereuse et qui cherche à tout prix à gagner du terrain.
Justement,
bien, nous devons, en soutien, encore une fois, de l'immense majorité des Français, eh bien, contenir cela et ne plus être dans une approche défensive, mais offensive.
Alors, offensive.
C'est-à-dire afficher les principes de la République.
Jean-Michel Blanquer, justement une question très concrète. Il va y avoir l'examen très bientôt de la loi sur le séparatisme pour réhabiliter ou en tous les cas conforter les principes républicains. Est-ce que vous êtes à titre personnel favorable à l'interdiction du voile pour les petites filles dans l'espace public ? C'est un amendement qui pourrait être déposé notamment par Aurore Berger, députée La République En Marche.
Cette loi n'a pas vocation à traiter tous les sujets. Ils sont nombreux et d'ailleurs certains sujets ont été traités avant cette loi. Je rappelle que en matière scolaire, nous avons déjà deux lois la loi Gatel qui m'a permis de développer, d'avoir beaucoup plus de pouvoir pour empêcher des ouvertures d'écoles hors contrat, et puis la loi pour l'école de la confiance qui, par exemple, interdit le prosélytisme aux abords des établissements. Donc la loi confortant les principes de la République est une loi qui va permettre d'avancer très fortement, mais il y a certains sujets qui ne sont pas législatifs ou des sujets qui relèvent d'autres logiques qui auront à être traités dans les temps qui viennent. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'à l'occasion de cette loi, on n'accumule pas les sujets, parce qu'on peut en trouver,
sur cette question,
mais qu'on soit capable de cibler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Je ne suis pas sûr que ce soit par cette loi qu'il faille le traiter. Ce qui est certain, c'est que nous luttons contre ce type de phénomène. Quand en ce moment, avec le ministre de l'Intérieur, nous démantelons des structures clandestines ou pas, mais qui en tout cas ne respectent pas les principes de la République. Et effectivement, dans ces structures, on trouve des fillettes voilées de la tête aux pieds qui n'ont pas 5 ans.
Combien de structures vous avez démantelées ? Est-ce que vous pouvez...
Alors, depuis septembre, c'est environ une vingtaine de structures que nous avons démantelées. Alors, le mot démantelé peut recouvrir des choses différentes, mais en tout cas, nous réinscrivons les enfants ailleurs. C'est très important, encore une fois, que nous réussissions à ce que les enfants soient à l'école et qu'ils soient à l'école dans des structures publiques ou privées qui respectent les principes de la République.
Je vous pose cette question parce que vous étiez dit favorable à l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. Est-ce que vous l'êtes toujours, Jean-Michel Blanquer ?
J'ai toujours été très clair sur ce sujet, qui est un sujet, je dirais, intermédiaire. Soit vous considérez l'espace scolaire, et dans ces cas-là, elles peuvent le porter parce qu'elles sont hors espace scolaire. Soit vous considérez le temps scolaire, et là, il y a un vrai sujet. C'est là-dessus que je me suis exprimé, puisqu'elles sont dans le temps scolaire et qu'effectivement, il faut éviter tout ce qui peut s'apparenter à du prosélytisme. Ce débat a été tranché, donc on ne va pas le réouvrir en permanence. Et donc, ce n'est pas quelque chose que je vais réintroduire à l'occasion de la prochaine loi.
Alors, autre sujet que vous avez à votre agenda et qui malheureusement s'est invité aussi dans l'actualité, après le suicide de Fouad Luna, une adolescente transgenre de 17 ans qui était scolarisée en terminale au lycée Fénelon de Lille. Votre ministère a été pointé du doigt, c'est l'objet de la question. En plus, elle vous est posée par Annabelle Motta, professeure d'EPS chargée des discriminations au SNEP.
Le grand jury, la question en plus.
Annabelle Motta, prof de PS, chargée des discriminations au syndicat national d'éducation physique. Accueillir à l'école un élève trans nécessite des connaissances de base pour instaurer un climat sécurisé et éviter les drames comme le suicide de cet élève à Lille. Ce qui existe aujourd'hui dans les établissements dépend surtout de l'engagement individuel des personnels par rapport à la question des discriminations LGBT. Que comptez-vous faire, Monsieur Blanquer, en termes de formation pour que tous les personnels encadrants puissent respecter l'identité de chaque élève dans sa diversité et permettre son épanouissement à l'école ?
Jean-Michel Blanquer.
C'est un sujet important et c'est un sujet significatif. Vous savez, quand je parle de l'école primaire notamment, j'ai toujours, il y a lire, écrire, compter, respecter autrui. Se respecter autrui, il est essentiel, c'est justement les valeurs de la République, c'est le fait de se respecter les uns les autres, quelles que soient nos différences. À l'intérieur de cela, il y a la lutte contre le harcèlement, qui est un enjeu majeur, et à l'intérieur de cela, il y a la lutte contre le harcèlement LGBT. Donc c'est une action cohérente d'ensemble que nous avons menée, qui nous a permis d'ailleurs de faire baisser le harcèlement, mais pas le cyberharcèlement, qui est aussi un des phénomènes très graves de notre époque et pour lequel nous devons être plus efficaces dans les temps qui viennent. Et nous avons fait beaucoup d'actions contre le harcèlement anti-LGBT, d'ailleurs souvent avec le monde associatif, et y compris par la formation. D'abord, la formation qui désormais doit être systématique en formation initiale sur ces enjeux. Là aussi, c'est une suite de la loi pour l'école de la confiance. Et puis des référents. Nous avons créé aussi des ambassadeurs anti-harcèlement et toute une série aussi de documents pédagogiques de formation. Donc oui, nous devons toujours progresser sur le sujet. Nous n'avons pas du tout été inertes. Et bien entendu, il est très important d'avoir la plus grande bienveillance pour chacun des élèves, quelles que soient les caractéristiques de l'élève.
Je renvoie les auditeurs de RTL au documentaire qui sera diffusé ce soir chez nos camarades de M6, intitulé « Ni fini garçon, enquête sur un nouveau genre ». Ce sera dans Zone Interdite. C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Jean-Michel Blanquer, pour ou contre la démission de Frédéric Mion, vous savez, qui est mis en cause dans les révélations autour d'Olivier Duhamel. Il a été informé par Aurélie Filippetti, qui l'a dit sur RTL, de ce qui s'était passé. Est-ce que Frédéric Mion doit, selon vous, démissionner de Sciences Po ?
Je n'ai évidemment pas à me prononcer sur un tel sujet qui n'est pas dans mon champ ministériel, puisque c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est une maison que je connais bien.
Oui.
Autrefois, j'ai postulé pour la direction, tellement je l'aime. Donc, c'est une raison supplémentaire pour ne pas m'exprimer beaucoup sur un tel sujet. Simplement, cette affaire est grave. Ça, c'est certain. Elle est grave parce que, d'abord, elle porte sur l'inceste, qui est un phénomène... profondément grave et qui est le tabou majeur de toute société, comme disait Lévi-Strauss. Et ce phénomène grave suppose qu'une société qui va bien soit capable à la fois de le dénoncer et d'y remédier. Donc quand une personne qui est un petit peu dans les élites intellectuelles, en l'occurrence, c'est un grand professeur, qu'une personne comme cela ait pu ainsi vivre de manière impunie, un tel acte est quelque chose qui évidemment nous interpelle. Est-ce que ça a un impact sur les institutions dans lesquelles il a travaillé? Ça, franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je me garde bien de prendre des jugements à l'emporte-pièce comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'on doit regretter qu'il y ait eu un tel omerta pendant toute cette période et que tout ce qui a contribué à cette omerta doit être condamné, évidemment. Et donc, ça suppose de regarder de près ce qui s'est passé depuis 20 ans en la matière. En tout cas, que ceux qui ont su et ne l'ont pas dit aient honte. Qu'ils aient vraiment pleinement honte.
Donc,
et que chacun d'entre nous qui entend cela, que chaque personne qui nous entend, chaque personne qui nous... Si votre question peut avoir cet avantage, que chaque personne qui nous entend et qui un jour a ou aura connaissance d'un fait comme ça, le dise, le dénonce. Ne pas dénoncer, c'est être complice.
Pour ou contre Jean-Michel Blanquer, la réforme des retraites avant mai 2022 ?
Alors, ça c'est un...
Pour
ce qui est certain... Non. Ah oui, il faut dire pour ou contre, c'est ça, d'accord.
C'est l'exercice. Là, c'est assez simple. Hein. C'est soit vous voulez la faire, soit vous voulez pas la faire.
Mais admettez que parfois la réalité est complexe. C'est-à-dire que ça dépend c'est une question aussi de, par exemple, de fin de la crise épidémique. Actuellement, nous sommes évidemment très concentrés sur un tel sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une réforme des retraites dans l'intérêt des jeunes Français.
Mais d'ici la fin du quinquennat.
Ça, c'est une question de calendrier parlementaire, c'est une question...
Vous l'excluez pas.
Ça n'est pas à exclure, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui sont...
Vous êtes pas très chaud, quand même.
Hein. Moi, vous savez, aujourd'hui, je suis très concentré sur deux choses. Un, la gestion de la crise épidémique. Deux, une chose dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de l'émission et qui a un lien avec votre question, et qui est le Grenelle de l'éducation. Nous travaillons à la revalorisation des professeurs. Cette revalorisation leur permettra évidemment aussi de mieux préparer leurs conditions de retraite. Elle va permettre, par exemple, à un professeur de gagner 2000 euros, un professeur débutant, de gagner 2000 euros brut annuels de plus en fin de quinquennat qu'en début de quinquennat. Dès cette année 2021, il y a une nouvelle augmentation qui traduit cela. Et surtout, en ce moment même, les ateliers de travail auxquels participent certains syndicats, le travail qui a été accompli avec toute une série d'acteurs, va nous permettre, d'ici quelques semaines, de déboucher sur des réformes importantes des ressources humaines de l'éducation nationale et sur la revalorisation du salaire des professeurs.
Comment vous expliquez la défiance aujourd'hui des enseignants à votre rencontre ?
Merci de me donner l'occasion de revenir sur votre introduction discutable. Vous avez cité, sauf erreur de ma part, le sondage que vous avez cité est un sondage syndical. Mais par exemple, vous l'avez cité sur la réforme du lycée.
Il n'a pas été fait par les syndicats, mais par un institut de sondage.
Je ne suis pas obsédé par les sondages, mais le dernier sondage, qui d'ailleurs relève de votre journal, Monsieur Roquette, le dernier sondage sur la réforme du lycée donne 58% des lycéens favorables à la réforme du lycée. Bien, je peux vous dire que, alors qu'ils sont pilonnés tous les jours par des messages négatifs de tous ordres sur la réforme, qu'ils soient 58% à être pour,
ça dit bien qu'ils sont ministres et enseignants.
Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont en faveur de la réforme du lycée. Ils voient bien ce qu'on a cherché à faire, c'est-à-dire donner plus de choix aux lycéens et hausser le niveau général. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, ceci bouscule beaucoup de choses, c'est difficile. C'est vrai que ça a réclamé plus de travail de la part de tout le monde, y compris des professeurs. Et je veux les en remercier. Mais moi, je croise tous les jours des professeurs qui voient très bien l'intérêt de la réforme du lycée.
Voilà, vous avez répondu à cette introduction. Je continue question express. Pour ou contre Jean-Michel Blanquer, la suppression même du compte Twitter de Donald Trump ?
Contre.
Vous pensez qu'il aurait dû être maintenu au nom de la liberté d'expression ?
Je pense que la liberté d'expression est quelque chose de très important. Donc c'est, c'est en tremblant qu'on doit aller contre la liberté d'expression. Moi, je suis pour qu'on désanonymise les comptes Twitter. Que je sache, Donald Trump n'apparaît pas sous un pseudonyme. Ou alors, c'est une révélation qui aurait dû être faite depuis longtemps. Le fait est que la liberté d'expression est très importante. Maintenant, évidemment, je suis en désaccord profond, ça va de soi, avec ce que fait Donald Trump actuellement. Mais nous devons être très attentifs aux enjeux de la liberté d'expression.
C'est dit. Pour ou contre, enfin, Jean-Michel Blanquer, candidat au régional en Île-de-France en juin prochain ?
Alors, je vous répondrai à cette question au mois de février. Comme je vous le disais à l'instant, je suis totalement dédié à la lutte contre l'épidémie pour la partie scolaire et au fait que les enfants aillent à l'école. Et puis, je suis dédié à cette réforme des ressources humaines du ministère et à l'accomplissement des autres réformes.
Vous serez toujours dédié à ces réformes en février, Jean-Michel Blanquer ?
Non, ça dépend aussi beaucoup à la fois du travail d'équipe qui est accompli actuellement. Je travaille beaucoup avec Laurent Saint-Martin, qui est député du Val-de-Marne, sur le programme. Donc, c'est lui qui fait tout le travail de coordination actuellement, pendant que je fais ce que j'ai à faire en tant que ministre. Nous avons à faire le point en fin de mois de janvier sur un petit peu à la fois ce que nous faisons avec nos alliés, que sont le Modem
mais
et
avec
Agir.
Toutes les réformes que vous venez de rappeler, plus le contexte sanitaire, vous considérez que les conditions peuvent être réunies pour que vous puissiez cumuler tout cela avec un...
Ça n'est pas évident, je vous l'accorde, et c'est bien pour ça que je vous fais cette réponse. Et c'est pour ça qu'au mois de février, nous prendrons la décision. La question des régionales est très importante, mais elle n'est pas dans l'esprit des Français aujourd'hui, et à juste titre. Il y a beaucoup à faire, notamment dans le cadre du...
Enfin, elle est dans l'esprit du président de la République qui incite beaucoup ses ministres à y aller.
Non, mais c'est le cas
avec vous, non ?
Il y a par exemple, il y a plusieurs enjeux. L'un d'entre eux, il faut l'avoir en tête, c'est qu'il y a le plan de relance qui a maintenant bien démarré et qui va nous permettre de relancer l'économie française. Et le tout en partenariat avec les régions. Il est donc normal que dans le cadre de la campagne des régionales, que nous gagnions des présidences ou pas, en tout cas nous fassions valoir l'importance de réussir pour la France cette relance.
Oui, mais
moi, c'est évidemment un sujet qui touche les questions scolaires aussi. Je suis très sensible à ça. Néanmoins, ce n'est pas nécessairement à moi de porter cela. Je verrai le moment venu.
Est-ce que vous considérez que Valérie Pécresse est une mauvaise présidente de la région Île-de-France, sachant que vos alliés, notamment le Modem dont vous venez de parler, travaillent avec elle dans sa majorité ?
Est-ce que c'est une mauvaise présidente ? Pour moi, au fond, ce n'est pas le sujet sur cette élection comme sur d'autres. C'est-à-dire que... Vous savez, moi, je suis très fidèle à l'esprit de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. C'était en réalité contre personne. C'était pour proposer quelque chose de nouveau. Il y avait une bienveillance dans sa campagne qu'on ne voyait pas nécessairement dans les campagnes d'autres candidats. Et c'est ce qui a fait sa victoire. Et donc, si je dois aller à une élection, que ce soit celle-ci ou une autre, ce sera toujours mon état d'esprit.
Mais pas
mon
but contre Pécresse, pas... donc.
Non, certainement pas. Mon but, c'est proposer, que, si j'y vais, ou ce sont mes amis qui y vont, et je les aiderai.
Donc vous pourriez
c'est
travailler d'y
aller
avec
pour
demain.
Proposer quelque chose. C'est ce que veulent les Français. Ils veulent que, par exemple, si vous prenez les sujets régionaux, c'est le logement, c'est le transport,
mais
c'est
mais
les
si
lycées.
Si c'est pas une mauvaise présidente de région et que vous voulez proposer quelque chose et qu'elle l'accepte, est-ce que vous pourriez travailler avec elle demain ? Est-ce qu'au deuxième tour, vous pourriez imaginer soutenir Valérie Pécresse ou l'inverse
Puisque vous parliez d'unité nationale pendant
déjà,
que
vous avez mis vos questions sont d'or. Je vous répondrai non pas à la première personne du singulier, mais à celle du pluriel, parce que de toute façon, c'est un sujet qui doit se traiter collectivement, y compris avec les différents mouvements politiques. Mais c'est important, région par région, que ce soit avec le centre droit ou avec le centre gauche, de construire des majorités d'idées, des majorités de projets. Donc je pourrais vous faire des réponses comparables sur l'ensemble des régions de France.
Bon, on y verra plus clair en février, début ou fin.
Tout à fait.
Nous direz ça, certainement, on l'espère, sur RTL. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Adam.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel Blanquer. Alors vous avez annoncé que durant cette émission que la vaccination des enseignants serait pour le premier semestre, mais Yannick, lui, attend une réponse quand même un petit peu plus précise de votre part. Est-ce que vous pouvez du coup affiner quand est-ce que, si vous avez un mois, quelque chose de plus précis ?
Non,
pour
d'ailleurs...
dire quand est-ce que les professeurs pourront se faire vacciner ?
Non, ça ne m'appartient pas de faire des annonces sur des sujets sanitaires précis. Je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, que c'était les critères d'âge qui comptaient et qu'ensuite, bien entendu, les critères professionnels viendraient quand on serait dans le moment de la population active. J'aimerais pouvoir donner une date précise, mais ça n'est pas possible. Et quand bien même ce serait possible, ce n'est pas à moi de l'annoncer. Il faut qu'il y ait une unité d'action, et c'est évidemment les autorités de santé qui doivent le faire.
Autre question d'Aurélia.
Oui, tout à fait. Alors, elle vous dit, Monsieur le ministre, les restaurants sont fermés dans le pays, mais par contre, les selfs, eux, restent ouverts dans les écoles. Les salles de sport sont aussi fermées en France, mais les cours d'EPS, éducation physique et sportive, sans masque, continuent pour les élèves. Où est la cohérence dans tout ça ? Elle ne vous
comprend pas. Il y en a une. D'abord, plusieurs éléments de cohérence. D'abord, si on faisait l'inverse, les critiques ne manqueraient pas en disant vous fermez ceci, pourquoi vous ouvrez ceci, pourquoi vous fermez cela. On a sans arrêt ce type de choses. Mais là, en l'occurrence, nous considérons, et sur la base d'études, que évidemment les enfants et adolescents, notamment, donc les enfants et adolescents sont moins vulnérables que la population plus âgée, c'est un fait, et donc ça justifie largement de le faire, que par raison et que par ailleurs, ne pas faire ce que nous faisons aurait des inconvénients encore plus grands. Lorsque, pendant le confinement, vous aviez des enfants qui n'allaient pas à la cantine, cela a généré des problèmes sociaux graves. Lorsque vous avez des enfants qui n'ont pas d'activité physique, cela génère des problèmes de tous ordres, y compris de bien-être et des problèmes psychologiques. Donc, soyons attentifs à la vision complète de l'enfant, sur le plan éducatif, sur le plan physique, sur le plan sanitaire.
Toute dernière question.
Oui, concernant le baccalauréat, une professeure à Toulon, Anne-Laure, dénonce des pressions de la part de parents à cause du contrôle continu pour pouvoir augmenter les notes des élèves. Est-ce qu'il y aura des sanctions qui pourront être prises contre les parents qui font ce genre de pression
à cause
de la mise en place du contrôle continu?
De façon générale, on ne doit pas faire pression sur les professeurs. Il y a même, c'est même l'article 1 de la loi pour l'école de la confiance qui le dit. On doit respecter les professeurs.
C'est dit pour les parents d'élèves. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RTL aussi sur vos plateformes, bien sûr, préférées. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.